André Dimbou, au Qatar oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver à nouveau pour ces 57 minutes interactives sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le 16 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'alimentation. Cette journée est célébrée cette année sous les signes d'amélioration des effets du changement climatique sur l'alimentation. C'est l'occasion pour le gouvernement de la RDC et ses partenaires de conjuguer les efforts en vue d'assurer à la population une sécurité alimentaire garantie. Quels sont les préalables pour y arriver ? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Notez que Julie Fezabongonda est au standard, Pierrot et Lamégi à la réalisation, Sylvain Matundu à la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Dans une étude complète de l'Institut des droits de l'homme de l'Université des Columbia à New York, intitulée « Changement climatique et droit à l'alimentation », l'analyste indique que l'impact du changement climatique sur les populations du monde va s'aggraver. Il se fera sentir de façon disproportionnée pour certains pays, parmi les plus pauvres et par les plus vulnérables de ces pays. Aussi, les petits agriculteurs et les peuples autochtones, ainsi que ceux plus généralement, qui dépendent des terres et des ressources en eau pour assurer leur subsistance et qui constituent la moitié des affamés dans le monde seront le plus touchés. En effet, cette étude souligne également la menace du réchauffement climatique ou le réchauffement de la planète sur l'approvisionnement alimentaire. Mais notez, chers auditeurs, que dans la 6e édition de l'indice mondial de la faim, publié par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, 26 pays, dont la RDC, continuent de présenter une situation grave et 9 pays, dont aussi la RDC, ont connu une aggravation de la faim. Comment arriver à inverser la situation ? Nous en parlons dans cette émission. Nous recevons aujourd'hui M. Alexis Bonté, représentant de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation en RDC. Bonjour M. le représentant.
Oui, bonjour Monsieur JR et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, d'entrée des jeux, c'est vrai, nous avons célébré le 16 octobre de cette année la Journée internationale de l'alimentation. Quel est le thème qui a été retenu cette année ?
Donc le thème, c'est le climat change et il faut absolument que l'alimentation et l'agriculture, donc notre mode d'alimentation et notre mode de produire, change également pour pouvoir s'adapter au mieux au changement climatique. Non seulement s'adapter, mais également essayer de le mitiger, de l'atténuer. Il faut travailler sur les deux volets à la fois, l'atténuation et l'adaptation.
L'atténuation et l'adaptation. Alors aujourd'hui, il est évident que l'urgence climatique mobilise de plus en plus les efforts des hommes politiques, partout au monde, même d'autres acteurs. Mais selon certains analystes, il faut ne pas perdre de vue les autres impératifs de l'humanité, comme la sécurité alimentaire. Qu'en pensez-vous ?
Bon, vous savez qu'au niveau mondial, il y a plusieurs grandes préoccupations. Une des premières, c'est évidemment la faim. On sait que la population va croître de manière assez importante d'ici quelques décennies. Et il faudra absolument trouver comment augmenter d'environ 60% la production agricole, la production alimentaire, pour nourrir toutes ces familles. On pense aussi que d'ici 2030, l'espoir, c'est qu'on arrive à cette faim zéro. Donc il y a un grand slogan qui a été lancé, qui est nous pourrions être la génération faim zéro. Donc ça, c'est vraiment un objectif très important pour l'ensemble des Nations Unies. Et une autre préoccupation, c'est évidemment ce changement climatique qui va affecter différents secteurs, dont l'agriculture. Mais l'agriculture va être une victime de ce secteur, mais c'est également une cause. On estime qu'il y a environ 10% des gaz à effet de serre qui sont produits par l'agriculture, également de l'ordre de 10% qui sont produits de manière indirecte par l'agriculture, c'est-à-dire par la déforestation. Donc l'agriculture, elle a un rôle extrêmement important dans la mitigation, donc limiter les gaz à effet de serre qu'on peut émettre. Donc en Europe, on les émet principalement par les tracteurs, etc. Et dans les pays comme le Congo, où on a une très grande responsabilité, c'est surtout au niveau de la déforestation. Donc plus on déforeste, moins on a d'arbres qui vont piéger le carbone.
Alors depuis 2010, la RDC, a déjà dépassé la barre psychologique ou la barre tolérable. On parle même d'avoir atteint le niveau extrêmement aggravant donc de la situation de la faim aujourd'hui comme dans d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces thèmes choisis sur le plan mondial, j'imagine que l'approche qui doit être utilisé, doit être à la hauteur d'amener réellement à inverser la situation de la RDC aujourd'hui, parce que ça ne sera pas facile.
En effet, ça ne sera pas facile, parce que la situation est très sérieuse. C'est une problématique très importante, parce qu'elle touche aux droits humains, hein, l'alimentation, et surtout vu la taille du pays. Donc, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait « une agriculture sans finances, ça nous fait revenir à la cueillette ». Donc, il faut qu'il y ait un investissement qui soit très important, non seulement de la part du gouvernement, mais également de la part des bailleurs de fonds. Et il faut que ce soit un investissement qui soit bien coordonné. Et ça doit être coordonné principalement par le gouvernement, se donner quelques objectifs très clairs. Donc l'agriculture familiale durable, où on fera attention à bien gérer toutes les ressources naturelles au niveau des petits paysans, mais également, comme le gouvernement a déjà commencé, au niveau des parcs agro-industriels, où il faut à la fois être capable de produire un maximum, mais de pouvoir là aussi, gérer au mieux les ressources naturelles et faire attention au niveau social. Ne pas avoir d'impact négatif pour les populations.
Alors, pour célébrer le thème de la journée mondiale de l'alimentation de cette année, vous l'avez dit, le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Alors, la FAO a proposé au moins 7 faits sur les changements climatiques et quelques-unes des activités qu'il va devoir mener tout au long de cette année pour arriver quand même à atteindre les objectifs. Alors, vous avez parlé de déboisement, il y a un accent qui sera mis aussi sur l'élevage, qui est à l'origine de près de 2/3 d'ailleurs des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la production vivrière et tant d'autres. Voilà. Donc tout ça, c'est dans l'objectif de pouvoir aller vers la fin zéro.
Oui. Donc ici, on est occupé de développer un programme grâce à différents bailleurs de fonds. Et il y a entre autres ce qu'on appelle le Central Africa Forest Initiative. Un programme à différents niveaux, mais je voudrais surtout m'attarder au niveau communautaire, c'est de faire prendre conscience aux gens. Parce que c'est généralement les gens qui font face à une situation de précarité, comme la plupart des familles qui sont en milieu rural, ces personnes n'ont pas l'occasion et n'ont pas le regard suffisant que pour s'adresser des problèmes environnementaux, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact de la dégradation environnementale sur leur vie au quotidien. Donc il faut qu'on travaille sur des programmes qui, à la fois, leur permettent d'avoir un impact au niveau direct, mais qui les incitent à prendre des mesures pour avoir des impacts à long terme. Donc c'est pour ça qu'on a un type de programme qu'on a surnommé les caisses de résilience, où on associe à la fois de la production agricole à court terme, donc par exemple avec du maraîchage ou du petit élevage, et de la production à long terme, donc tout ce qui est de l'agroforesterie. Et ça, on voudrait associer avec des systèmes de crédit et épargne qui, eux, donnent des bénéfices extrêmement concrets et extrêmement directs aux populations. Donc il y a un système au sein de cette approche que l'on a déjà appliqué dans d'autres pays qui fonctionne bien, c'est un système de conditionnalité. Donc les familles qui veulent avoir accès au crédit s'engagent et donc s'obligent à appliquer des bonnes pratiques environnementales et des bonnes pratiques agricoles. Donc ça crée un cercle vertueux. Donc comme tout le monde veut avoir accès au crédit, parce qu'avec ça vous développez des activités génératrices de revenus qui vous donnent un petit salaire chaque jour, comme tout le monde veut cet accès au crédit, vous êtes enfin contraint à appliquer les bonnes pratiques, donc de planter des arbres, etc. Donc
voilà, à ces jours officiellement, la FAO est en programme avec la RDC.
Oui, ça fait plusieurs décennies que la FAO a été accréditée.
Peut-être un programme particulier par rapport à... Parce que c'est vrai, c'est un partenaire traditionnel, mais un programme particulier par rapport d'ailleurs aux objectifs dont vous venez de parler, d'autres programmes, en particulier avec la RDC.
Oui, non, ben, en fait, ça c'est un programme qu'on va développer avec la RDC et qui, j'espère, devrait commencer dans le Kwilu d'ici le mois de mars. Mais il y a eu d'autres programmes qui ont déjà été faits, hein, surtout sur la surveillance de la déforestation, avec pas mal d'échantillons qui ont été faits dans différentes provinces. et aussi des inventaires forestiers qui nous permettent de voir quel est le niveau de dégradation, mais quel est aussi le niveau de biodiversité. Donc ça, ce sont des programmes qui ont été financés par différents bailleurs de fonds. Et là également, on a déjà eu quasiment la confirmation de cette initiative, le CAFI, qui vont supporter encore ce type d'activité pendant au moins, je pense, de l'ordre de 4 ans. Mais ce n'est pas que la FAO qui fait ce genre de travail. Il y a également le WWF et puis le ministère de l'Environnement qui ont d'autres méthodologies de surveillance des forêts. Et en fait, ce sont des méthodologies qui sont complémentaires et qui vont permettre de se vérifier les unes les autres. Donc elles sont complémentaires au niveau de la méthodologie, mais également au niveau de la géographie. Comme vous savez, le Congo, c'est extrêmement grand. Il y a de l'ordre de, je pense, 120 à 130 millions d'hectares de forêts. Donc on est obligé de travailler en partenariat assez important pour s'assurer de couvrir l'ensemble de la superficie du Congo.
Voilà, on sait que la guerre des lots, c'est dans les prochains jours, mais la RDC couvre aussi une bonne superficie au niveau de sa forêt. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un programme dans le sens d'exploitation, par exemple, au niveau de la forêt avec la FAO pour permettre à ce que les familles autochtones qui sont tout autour de nos forêts puissent bien protéger cette forêt pour réellement faire face à ces réchauffements climatiques.
Oui, alors il y a plusieurs projets. Donc il y a un projet qui a déjà été approuvé mais qui va être signé au niveau du ministère des Affaires étrangères d'ici quelques jours, on l'espère. C'est un projet qui est financé par le Fonds mondial de l'environnement et qui va se mettre en exécution au niveau du Katanga qui s'appelle le projet Miombo. Où là, il va y avoir un projet qui va faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise de conscience de la part des communautés sur l'intérêt de la forêt. Et la forêt, il ne faut pas considérer que ce ne sont que des arbres, hein. Il faut considérer que c'est une forêt alimentaire. La forêt est aussi source de nourriture. Il y a ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, donc les champignons, les chenilles. Une fois que vous avez plus d'arbres, vous avez des nouveaux animaux qui apparaissent dans les arbres et qui sont des sources de protéines animales très importantes. Et l'idée également, c'est de pouvoir s'assurer que ces forêts deviennent, entre guillemets, comme une propriété de la communauté. Parce qu'il y a un danger, surtout par exemple au Katanga, où on connaît la richesse du sous-sol, c'est qu'il y ait différents intervenants avec différents intérêts qui se chevauchent et qui même rentrent en conflit. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de donner des titres fonciers qui est de sorte à ce que ces forêts appartiennent aux communautés et que personne d'autre puisse venir les détériorer et les puiser. Et là également, on va leur permettre d'avoir ces titres fonciers, mais également à condition qu'elles s'engagent à restaurer ce qu'on appelle le paysage forestier. Donc elles devront appliquer une méthode de gestion qui est, comme on dit, durable, pour que ce soit pas seulement elles seules qui profitent de ces forêts, mais également les générations qui viendront.
081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous accueillons les premiers auditeurs qui nous ont rejoints dans ce débat. Alain, vous êtes à Kinshasa, Félicien également dans la ville-province de Kinshasa et Isaac à Bukavu. Alain, bonjour.
Bonjour Radio 50, Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Voilà Alain, vous venez de suivre notre invité et tout à l'heure quand nous annoncions la thématique du jour en rapport avec la journée qui a été célébrée le 16 octobre dernier, journée relative à la lutte contre la faim, pour arriver finalement à atteindre l'objectif, il y a le thème qui a été retenu cette année, le climat change, je l'ai dit tout à l'heure, les climats changent, l'agriculture et l'alimentation changent aussi. Donc voilà. Alors, quel est votre commentaire par rapport à la question que nous avons posée en début? Est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à atteindre quand même cet objectif de fin zéro d'ici 2030?
Bon, moi personnellement, je ne suis pas sûr et certain que notre pays pourra atteindre cet objectif qui est légitime. Compte tenu de certaines lacunes que nous enregistrons, partant de notre structure économique et surtout de notre organisation sociale. Aujourd'hui, il est un secret pour personne que la dégradation de l'environnement et la pauvreté sont deux phénomènes auto-entretenus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si notre forêt est mise en mal ou nous enregistrons de la dégradation assez avancée, c'est tout simplement parce que cette forêt constitue d'une part des enjeux économiques et d'autre part des enjeux écologiques. Il serait préférable de mon point de vue que dans nos analyses, que nous intégrions les deux dimensions pour nous permettre d'avoir une bonne politique en termes de gouvernance de notre forêt. Comme vous le savez, la forêt détient des richesses fauniques et floristiques. Et ces richesses peuvent être transformées en richesses économiques. Et lorsque nous prenons en termes d'exploitation, vous allez vous rendre compte que l'exploitation de produits forestiers ligneux, ce sont eux qui mettent plus en mal cette forêt. Et si vous prenez aussi la nécessité d'avoir une agriculture sur brûlis, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a aussi une dégradation forte de la forêt. Et pourtant, la communauté internationale sait très bien que cette forêt a aussi des enjeux écologiques. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un problème du réchauffement climatique qui demande à ce que nous prenions en compte cette exigence sur le plan écologique. Mais malheureusement, la communauté internationale, ou plus précisément les pays à grande puissance, les pays industrialisés, continuent à faire gaz à effet de serre. Et on nous exige à nous, Congolais, bien que cette réalité a une portée mondiale, on nous exige de préserver notre forêt, mais en contrepartie, on ne donne presque rien. La majorité des Congolais vivent en deçà de 2 dollars par jour, ce qui sous-entend que c'est une population pauvre. D'après les statistiques, il y a plus de 71% de Congolais qui sont pauvres. Mais lorsqu'on nous demande de ne pas exploiter nos forêts, c'est une manière de nous condamner à la pauvreté.
Oui, Alain, Alain. Juste une préoccupation, on sait tout de même qu'en 2010, la RDC n'a investi que 0,64% de son budget dans l'agriculture et 2 ans ou 3 ans plus tard, on n'a pas dépassé la barre de 3 ou 4%, ce qui fait qu'on a tenu compte de certaines réalités et non la réalité actuelle que nous évoquons, le réchauffement climatique. Est-ce que vous ne voyez pas comme d'autres observateurs que ça sera pratiquement difficile pour nous parce que les réalités changent? Et ça s'appellera quand même à la RDC de doubler les efforts, et surtout au niveau de la politique à imprimer sur le plan, par exemple, l'agriculture et d'autres questions qui sont transversales. Vous venez de dire la gestion, par exemple, des forêts.
Oui, effectivement, nous avons toujours fustigé l'approche adoptée par le gouvernement, surtout en ce qui concerne le secteur agricole. Nous savons tous que c'est un secteur à forte capacité génératrice d'emploi. Et par rapport aux accords de Maputo, on devait en principe avoir un budget qui touche pratiquement les 10% pour soutenir l'agriculture. Il n'y a que l'agriculture mécanisée qui pourrait encadrer nos réactions ou nos actions par rapport à l'environnement. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes plus dans une agriculture traditionnelle de type familial qui ne permet pas à ce que nous intégrions la dimension environnementale. Voilà pourquoi moi je dis, aujourd'hui, la communauté internationale doit avoir le courage de reconnaître que la République démocratique du Congo a un rôle à jouer par rapport au réchauffement climatique. Mmh. Mais ils doivent au moins faire en sorte que nous arrivions à diversifier notre économie, que nous arrivions à qu'elle arrive à financer en partie notre économie, parce que nous ne pouvons pas préserver l'environnement en même temps chercher à vivre. Si vous prenez aujourd'hui la partie nord de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la province de l'Équateur, l'ancienne province de l'Équateur, l'ancienne province orientale, la majorité des pauvres se retrouvent dans ce coin-là. Mmh. Mais en même temps, on nous demande de ne pas exploiter nos forêts, alors que la population devient de plus en plus dépendante de cette forêt.
Tout à fait. C'est
vrai qu'il y a des produits forestiers non ligneux qui sont aussi exploités. Mais c'est plus les produits ligneux qui permettent à ceux que notre économie puisse avoir le moyen de sa politique. Donc, je dis de mon point de vue, nous devons aujourd'hui à la communauté internationale d'intégrer la dimension économique de notre forêt, afin que nous arrivions à avoir en contrepartie quelque chose pour nous permettre de diversifier notre économie et de lutter contre la faim.
Merci beaucoup Alain d'avoir appelé de Kinshasa la dimension économique à intégrer dans le plan d'activité des ONG internationales ou encore d'autres agences des Nations Unies qui sont concernées dans ces secteurs. Merci beaucoup. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour Gérard, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors vous pensez, comme Alain, il va falloir que la communauté internationale puisse repenser un peu sa politique ou des stratégies à mettre en place pour la lutte contre la faim en RDC?
Exactement, parce que l'invité a dit que c'est depuis des décennies que la FAO travaille avec le gouvernement congolais.
En tant que partenaire traditionnel, oui.
Oui. Et il y a d'autres organisations comme les PAM et tout ça, ils sont avec nous depuis des décennies. Je peux pas comprendre que nous soyons dans cette situation où même dans nos villages, il y a la déforestation, il n'y a plus d'arbres, les paysans se débrouillent à sa manière pour survivre. Alors que à l'époque, nous avions des moniteurs agricoles qui se promenaient partout pour encadrer les paysans. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Et dans nos villages, parfois même, les gens vivent au dépend de la ville. Ils viennent acheter du poisson dans la ville pour manger des boîtes de sardines. Alors que hier, c'était le contraire. Mais on ne voit pas cette politique d'encadrement des paysans, ne fût-ce que pour l'autosuffisance alimentaire, voir ces organisations en train d'aider le paysan à faire la pisciculture, à faire l'agriculture, à faire l'élevage pour leur survie. On ne voit pas ça, mais au contraire, on veut venir donner aux gens des produits, des OGM qui viennent d'ailleurs, alors que nous, on n'a pas besoin pour le moment de manger des produits avec les OGM parce que notre sol est encore riche, nous pouvons continuer à produire et la bonne qualité, des produits de bonne qualité qui peuvent aider.
Oui, mais Félicien, mais ceux qui disent que les sols et les sous-sols constituent quand même les domaines de souveraineté d'un État, on ne peut pas quand même céder ça à des étrangers. Bah, alors, ceux qui parlent de façon repenser l'économie ou de la façon de la politique, par exemple, de ceux qui viennent à l'appui dans ces secteurs, vous ne trouvez pas que c'est céder une partie de notre souveraineté?
Ah non, mais on ne peut pas parler de la souveraineté quand il s'agit de la survie de tout un peuple, de l'alimentation, c'est l'intérêt général. Si nous acceptons qu'on vienne nous donner des maïs, des OGM qui viennent d'ailleurs, les riz et tout comme ça, je ne sais pas comment nos politiques peuvent refuser qu'on vienne nous encadrer dans les domaines agricoles, je pense qu'ils accepteront. Dans la mesure où nous-mêmes ne sommes pas capables d'avoir un budget conséquent pour l'agriculture, et vous voyez comment nous sommes en train de dégringoler quand vous prenez l'époque des années 60, des années 50, 58, 59, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tombés très bas du point de vue agriculture, du point de vue autosuffisance alimentaire. Alors comment on va refuser l'aide qui vient
de
la communauté internationale, quand les politiques eux-mêmes, ceux qui nous dirigent, ils sont plus préoccupés par leur enrichissement illicite et leur intérêt personnel. Mais c'est la communauté internationale qui devait venir encadrer les petits agriculteurs et tout ça, à faire d'eux des grands agriculteurs. Ils peuvent développer ce domaine-là pour l'intérêt de la population.
Merci
beaucoup. Moi, je ne pense pas que ça soit vraiment un domaine de souveraineté, parce qu'on vient nous construire même des toilettes ici, on vient nous enlever les immondices. Je n'ai jamais entendu parler de souveraineté. Mais ce n'est pas du côté agriculture.
Voilà, merci.
Qui est l'intérêt même de ceux qui nous dirigent et que ça deviendra un problème de souveraineté.
Merci beaucoup, Félicien, pour vous. Je crois que on doit faire, comme on l'a dit, le monde, c'est un village planétaire. On doit faire avec les autres. Les climats changent, l'alimentation et l'agriculture aussi. Isaac, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Isaac.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
Est-ce que pour vous, c'est aussi un grand défi pour la RDC? Aujourd'hui, ces thèmes choisis le 16 octobre.
Justement, c'est un grand défi. Et le grand problème dont les pays souffrent en général, et en matière d'alimentation en particulier, c'est la volonté politique. Je l'ai dit dans le message que j'ai posté, que le gouvernement congolais, à de telles occasions, s'illustre dans des discours creux, des discours qui ne sont jamais suivis des faits. À de telles occasions, il aurait fallu une introspection, une autocritique sincère. Le gouvernement devrait évaluer les niveaux atteints entre l'année dernière et cette année, voir où est-ce qu'on en est dans la gestion de l'aide au développement agricole, la gestion de nos ressources. Ici, chez nous, au Kivu, il y a du gaz méthane qui fait des dégâts. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait pour exploiter ce gaz, par exemple, et l'utiliser?
Voilà.
Dans le chauffage au lieu de couper les bois.
Merci.
Il y a des pays voisins qui s'investissent dans cette activité-là. Pourquoi pas notre pays? Il y a des tracteurs qui ont été achetés pour le développement agricole, mais où est-ce que tout cela est passé? Vous voyez donc que c'est le problème de la volonté politique.
Merci.
Ce n'est pas la FAO qui viendra travailler à notre place.
Merci beaucoup, ce n'est pas la FAO qui vient d'ailleurs à l'appui. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, JR Lungembo.
Merci de fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Nous sommes dans ces studios avec M. Alexis Bonté, représentant de la FAO. Vous venez de suivre cette première série des auditeurs. Il y a Alain qui a beaucoup plus insisté sur la manière dont devra repenser un peu la politique d'assistance ou d'appui de la communauté internationale par rapport à ces dossiers qui, en tout cas, trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et puis Félicien qui a insisté sur beaucoup d'expériences, beaucoup d'activités qui ont été, réalisées par le passé, notamment les cas de moniteurs agricoles, et qui pouvaient aussi, qu'on pouvait mettre à profit pour arriver réellement au résultat. Il y a Isaac qui a évoqué la volonté politique qui doit être aussi prise en compte pour que finalement, ensemble avec le partenariat, on puisse vraiment arriver au résultat. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Alexis?
Okay, tout d'abord, merci beaucoup aux auditeurs pour leurs questions et de pouvoir écouter l'émission. Alors, en ce qui concerne les préoccupations d'Alain, en fait, il faut bien savoir, on est tous conscients que les gaz à effet de serre sont émis principalement par les pays développés, et il y en a 3-4 en particulier. Mais je pense que de plus en plus, il y a une conscience internationale et il y a eu beaucoup de sommets depuis les 2-3 dernières décennies qui se sont penchés là-dessus. Et comme vous savez, la COP21, ils ont pris pas mal de décisions. Et d'ici quelques semaines, il y aura la COP22 au Maroc, où, par exemple, il y a le Fonds vert pour le climat, qui a l'ambition d'avoir de l'ordre de 100 milliards de dollars comme budget. Et visiblement, ils ont déjà 10 milliards en caisse. Et d'après les informations qu'on a reçues, ce Fonds vert pour le climat devrait être en mesure de pouvoir confirmer certains engagements jusqu'à hauteur de 2,5 milliards de dollars au cours de la conférence de la COP22 au Maroc. Alors là, on est déjà en discussion avec les collègues du ministère de l'Environnement et on a déjà soumis plusieurs agences, ce qu'on appelle des notes conceptuelles, qui ont été présentées et qui risquent d'être défendues, qui ont été présentées il y a une semaine en Corée, lors du board meeting, comme ils disent. Et puis la semaine prochaine, je pense qu'il y a encore une réunion en Afrique du Sud où plusieurs collègues du ministère de l'Environnement vont défendre le cas de la RDC et les notes conceptuelles qui ont été proposées. Donc, vous voyez que les pays industrialisés sont une des premières causes de l'environnement, des dégradations de l'environnement, surtout au niveau des gaz à effet de serre. Mais ils commencent à mettre à contribution des montants qui sont relativement importants. Quand on parle de 10 milliards de dollars qui sont déjà en caisse, c'est pas rien. Maintenant, il faut vraiment qu'on puisse gérer ça en bon père de famille et de se respecter les uns les autres et qu'il y ait surtout un système de contrôle qui fasse en sorte que l'argent qui t'investit arrive à des choses concrètes sur le terrain. Et ça, c'est pas que le travail de la FAO, c'est aussi au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile et des populations. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut dénoncer. L'information et la justice, c'est clé pour la sécurité alimentaire. Donc il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on regarde bien qu'est-ce qui va être fait avec ces fonds. Donc au cas où certaines agences des Nations Unies ont ces fonds-là, moi je serais même d'accord qu'il y ait une cellule de suivi quasiment indépendante qui mette la pression sur les gens qui disposent de ces fonds et qui vont devoir les investir. Donc ça, je pense que c'est par rapport à la préoccupation d'Alain. Quels que soient les pays, on est tous conscients et on doit tous prendre des mesures pour essayer de limiter les effets, parce qu'encore une fois, comme on dit, ce sont les pauvres qui vont être les plus défavorablement touchés par ces effets climatiques. En Europe, même si chez moi, par exemple, dans le nord de l'Europe, il y a 3 degrés en plus, nous, on va être contents.
Oui, mais le problème, Félicien l'a dit, c'est vrai, le thème est clair, le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi, mais on sait que c'est un grand défi pour la RDC, qui aujourd'hui, le secteur de l'agriculture est largement négligé, la production elle est quasiment faible, donc ça risque d'être vraiment très compliqué. Voilà, selon le propos de Félicien.
En fait, ce qui manque pas mal, c'est de donner des perspectives aux populations et de l'espoir. En fait, j'étais dans le Sankourou au mois de juillet en moto. Si je nais au milieu du Sankourou, là, vers Moussaïdi, Loto, etc., quel est mon avenir? Je vois pas où est mon avenir. Même la route qui va de mon village à Lomela, à part en vélo ou à pied, je peux pas la pratiquer. Donc il faut que même l'accès à l'hôpital. J'étais avec le médecin de la région, et il me disait que des gens mouraient pour 3000 francs congolais parce qu'ils ne savent pas payer l'hôpital. Donc c'est quand même pas normal qu'on ne puisse pas aller à l'hôpital pour 3 $. Donc les gens n'ont pas de perspective. C'est ça le problème. Il faut un investissement plus fort et surtout un contrôle de l'investissement. Comme on l'avait dit il y a une semaine, je pense, le pays est capable de nourrir entre 1 et 2 milliards de personnes. C'est énorme. Et ça, c'est pas des chiffres en l'air. Il y a 80 millions d'hectares qui sont là. Si vous mettez la technique, on la connaît déjà. On est allé sur la Lune il y a plusieurs décennies. Donc, produire des aliments, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut mettre un climat qui mette en confiance les investisseurs, qu'ils soient des investisseurs industriels, mais également les investisseurs, les paysans. Ils vont pas travailler pour rien. S'il n'y a pas de marché, ils vont pas travailler. Ça, c'est clair. Ils vont rester dans l'autosuffisance.
Voilà. Alors, on sait tout de même que la RDC, aujourd'hui, constitue quand même une école en ce qui concerne le secteur tertiaire. Le secteur primaire et secondaire pose énormément de problèmes. Mmh. Et c'est ce qui constituera peut-être un obstacle pour arriver à relever ces défis. Ça risque d'être un peu compliqué parce que les secteurs primaires et les secteurs secondaires, aujourd'hui, ne marchent pas. Très bien. Je crois, si j'avais bien compris les propos tout à l'heure d'Alain, et qui a juste effleuré un peu cette question sur les activités menées au niveau du secteur tertiaire.
Ben, de toute façon, on ne fera pas sans secteur primaire. Hein. Quand vous avez 70% de la population qui est en milieu rural et qui représente plus de 80% de la pauvreté, on va pas pouvoir sortir les gens de l'extrême pauvreté sans passer par l'agriculture et un investissement fort. Je pense que c'est ce qui a été fait à un moment au Brésil quand ils ont réussi à sortir plus de l'ordre de 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté. C'était aussi en milieu rural et d'une part un accompagnement technique et secondement un investissement aussi en termes de crédit. Et ils avaient garanti un marché d'achat de la production. Et cette production qu'ils avaient achetée, ils l'avaient renflouée au sein des écoles pour faire ce qu'ils appellent les cantines scolaires. Donc, il y a moyen de créer une économie circulaire à l'intérieur du pays pour à la fois stimuler la production et également s'assurer que les enfants puissent avoir à manger. Donc ça, pour l'instant, même le PAM le fait ici, hein. Donc avec le PAM, il y a des programmes de cantines scolaires. Mais au lieu qu'on achète ces aliments à l'extérieur et qu'on les ramène dans les écoles congolaises, on peut les produire ici. Mais il faut mettre... Alors le PAM, la FAO et les ONG, on peut faire ça à une échelle relativement micro, dans 2 provinces ou dans 50 villages. Mais ce qu'on appelle la mise à l'échelle, ça c'est fait à travers des politiques nationales et des investissements qui soient nationaux ou de la Banque mondiale. Mais ça, c'est pas des agences techniques qui peuvent le faire. Nous, comme agence technique, on est surtout là pour essayer de capitaliser de la connaissance et la transférer et de la mettre à disposition.
Alors on va écouter cette deuxième série des auditeurs et à Patrick qui est un Bougibaï, ingénieur Valentin à Kinshasa et ingénieur Bâtier à Kisangani. Patrick, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour monsieur.
Quel est votre avis Patrick?
Oui, je viens de suivre récemment notre invité qui a invoqué le cas par exemple de ceux qui utilisent la forêt. Il lui dit, nous allons prendre au moins des mesures pour pouvoir pallier pour qu'ils puissent bien utiliser la forêt. Alors, je me demande, là, il y a 70% des populations qui vivent de ces forêts et ils n'ont pas même de soutien. Alors, dès qu'on va les poursuivre, comment ils peuvent vivre vraiment? Parce qu'il y a vraiment les gens qui sont maltraités au milieu rural, là, à ce qui concerne le problème de déboisement. Bon, c'est un problème grave. Comment notre invité peut au moins apaiser au moins l'esprit de ces gens-là?
Voilà, parce qu'il s'agit là d'une question un peu directe. Alexis, quelle est la réaction par rapport à ça?
Bon, je ne suis pas certain d'avoir compris tout ce que le collègue disait, mais...
Ben voilà, il parlait de 70% de la population qui ne bénéficie pas, hein, qui vivent au fait tout autour de la forêt ou qui ne vit que de la forêt. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, avec le programme pour au quotidien, en fait, il tombe souvent sur les cas de déboisement et tout, alors qui ne donne pas l'occasion à cette population de bénéficier réellement de... Et arriver maintenant avec le réchauffement climatique, il risque d'avoir des problèmes très sérieux. Alors, comment pallier à ces problèmes, à ces difficultés?
En fait, on ne va pas faire la police...
Je crois que c'est ce que j'ai pu comprendre.
Oui, oui. En fait, on ne va pas faire la police de la forêt. Hein. Les gens, on ne va pas les poursuivre et les maltraiter. Ce qu'on va faire, c'est leur démontrer qu'il y a d'autres manières de gérer la forêt. Et l'environnement, souvent dit, il faut le lire, l'environnement, il ne faut pas le détruire. L'environnement va être là pour vous servir, mais il faut pouvoir s'en servir de manière durable. Par exemple, dans chaque village, on peut prévoir des mesures incitatives pour qu'ils puissent planter 3-4 hectares de forêt localement avec différentes essences, qu'elles soient pour la construction, pour l'alimentation, pour le charbon, etc. De sorte que les populations vont aller ponctionner le bois dans ces petites forêts qu'ils auront constituées eux-mêmes, au lieu d'aller dans les grandes forêts et les détruire. Donc on ne va pas les empêcher d'aller se nourrir, ça c'est clair. On va simplement les conscientiser et leur dire, ça c'est un patrimoine qui est à votre disponibilité, à votre disposition. Surtout, ne la détruisez pas. Gérez-la de manière correcte. Et puis, au niveau du brûlis, même moi, quand je vois les savanes, je me dis, je vais jamais aller faire bêcher tout ça sans brûler. Mais il y a des systèmes qu'on appelle la rotation et l'assolement, la fertilisation des sols, qui peuvent se faire de manière organique et de manière très sereine au niveau des populations rurales. Il faut simplement leur démontrer encore une fois comment faire. Un des problèmes dans le secteur agricole, c'est qu'on néglige tout ce qui est la vulgarisation agricole. Or, la vulgarisation agricole, pour moi, c'est comme l'éducation. C'est une priorité. Ces gens-là, il faut le répéter chaque année pour que ça rentre vraiment bien, que ça devienne quelque chose de culturel. Quelles sont les bonnes techniques? Comme on va à l'école, on n'arrête pas l'école après 2 ans. On va jusqu'à 15 ans, 18 ans, voire plus. Et dans le milieu rural, il faut que cette vulgarisation reste longtemps.
Une question de curiosité, l'indice de la sécurité alimentaire aujourd'hui à RDC, c'est situé à quel niveau?
Bon, en fait, on a ce qu'on appelle le IPC qui, chaque 6 mois, fait un peu le bilan. Et donc il y a 5 phases et on est quand même dans la troisième phase la plus critique. Donc c'est pas encore catastrophique. Moi je me rappelle j'étais ici entre 2000-2005 pendant qu'il y avait des conflits assez violents où on était plus dans zone presque rouge. Ici on est en zone jaune voire orange sur l'ensemble du pays sauf certaines parties dans l'extrême ouest où on est vert. Donc c'est une situation où qu'il faut garder vraiment, il faut garder un œil dessus et faire attention que ça ne tombe pas du mauvais côté.
Et quelles sont les stratégies, les préalables, comme la question nous l'avons posée, quels sont les préalables pour arriver quand même à améliorer la situation?
Bon, l'agriculture à la fois c'est simple et compliqué. C'est simple parce qu'on dit si vous avez des bons inputs, des bons intrants et des bons outputs, des bons marchés, tout va marcher bien. Mais le problème c'est que mettre en place tout ça, c'est assez compliqué parce qu'il faut une intervention qui est très coordonnée. Entre la capacité des paysans à pouvoir s'acheter des intrants de qualité, mais également leur donner une garantie de marché. Si vous n'avez pas un marché relativement garanti, vous n'allez pas produire plus, ça ne servira à rien, parce que tout va pourrir sur place. Donc les marchés, c'est à la fois des gens qui peuvent acheter, mais également des systèmes d'écoulement, donc les routes, le maintien des routes. Donc là, il y a le fameux programme des 5 chantiers qui réhabilite les grands axes. Maintenant, il faut des programmes connexes, complémentaires, pour s'assurer que les routes et des dessertes agricoles puissent être également maintenues. Mais j'ai également vu des routes qui ont été réhabilitées et qui ne sont pas entretenues, pas par la mauvaise volonté des populations, c'est parce que eux-mêmes ne voient pas de commerçants qui arrivent.
Tout à fait.
Parce que les commerçants ne sont pas encore au fait, ils n'ont pas encore peut-être le courage d'investir dans des véhicules, etc., dans des zones reculées. Peut-être pour des problèmes d'insécurité, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de mécaniciens. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut mettre en place. Et évidemment, c'est quelque chose de difficile en général, et surtout au Congo en particulier. D'une part, vu la situation économique.
Il faut un financement.
Il faut des moyens. Et deux, au niveau géographique. Le pays est immense.
Inaccessible, avec le problème d'une accessibilité de certains coins, parce que le pays est vraiment immense. Hein, donc, c'est à dimension continentale. Voilà, on va écouter l'ingénieur Valentin qui nous a rejoint également à ce niveau du débat. Ingénieur Valentin, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bonjour, l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ça franchement c'est un défi à relever, c'est un grand défi et pour moi c'est assez honteux que l'on puisse parler de la sous-alimentation dans un pays comme la RDC et surtout encore plus mal de voir que nous devons importer les poissons et même pour le moment On nous apprend que nous importons même les oranges qui viennent de Loufou. Ça, c'est une information à vérifier. Moi, je pense que ça, c'est, il y a un problème d'une mauvaise politique agricole dans notre pays. Il n'y a pas de suivi de la politique agricole. Je ne sais pas s'il y en a vraiment une politique agricole bien établie et bien suivie dans ces pays. Et deuxièmement, je me dis, il faut beaucoup plus investir sur l'homme. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, il y a des ingénieurs agronomes. Et les jeunes gens qui terminent même les écoles secondaires, l'université, en faculté d'agronomie, ces jeunes gens sont en train d'errer dans la ville de Kinshasa, en train de chercher des emplois, alors que dans un pays où les gens ne mangent pas bien, les gens ne produisent pas bien, alors que l'État, le gouvernement devrait encadrer ces gens-là, les outiller, leur donner les moyens nécessaires pour qu'on puisse bien développer le secteur agricole dans notre pays. Donc, je comprends pas du tout. Alors, pas d'encadrement. Il y a l'invité qui parlait de moniteurs agricoles à l'époque. Mais aujourd'hui, les gens sont encore là. Les moniteurs agricoles n'avaient pas trop de théories, trop de connaissances comme aujourd'hui. Mais pourquoi nos gens, pourquoi nos gouvernants, pourquoi l'État ne peut pas outiller ces gens-là, les universités, les ingénieurs agronomes dans ces pays pour qu'on puisse...
Oui, mais ingénieur Valentin, aujourd'hui, il faut ajouter à cela une autre réalité, le réchauffement climatique. Et c'est vrai que les moniteurs agricoles à l'époque, aujourd'hui, ne risquent-ils pas d'être anachroniques?
Pardon?
La société est en évolution.
Oui, la société, oui. Quand je parlais des moniteurs agricoles, c'est parce que je voulais seulement montrer qu'à l'époque, ces gens-là n'avaient pas trop de connaissances. Mais aujourd'hui, les jeunes gens qui ont étudié, ils doivent aussi, ils savent qu'il y a un problème de climat. Et quand ils arrivent dans des villages, là où il faut faire les activités agricoles, ils ont les notions qu'on ne peut pas aller au-delà de faire ceci, faire cela, parce que nous devons aussi protéger notre climat. Donc c'est dans le sens là que je fais allusion aux moniteurs agricoles de l'époque par rapport à nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci,
ingénieur. C'est pour dire que investir sur l'homme. Et l'homme d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui terminent avec trop d'énergie, ils peuvent mieux faire au lieu de les abandonner, en train de chercher des bureaux climatisés, tout ça là.
Merci beaucoup, ingénieur Valentin. Deux choses, mauvaise politique agricole et puis investir sur l'homme. Voilà, c'est votre point de vue, ingénieur Battier. Vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour aussi à l'invité et à tous les auditeurs qui nous suivent partout dans le monde.
Quel est votre avis?
Je voulais juste intervenir, c'est, le sujet est bon. Malheureusement, je voulais dire que tout cela, ça revient seulement à notre gouvernement. Vous savez, monsieur le journaliste, notre gouvernement n'est pas toujours responsable de ses engagements. Vous pouvez vous imaginer notre pays signe des traités pour la protection de la nature et de l'environnement. Malheureusement, que la population en soi ne reçoit rien dans tous ces engagements-là. Je peux vous donner juste l'exemple. Prenons le cas du parc national de Virunga. Moi, j'ai travaillé vers Mouja, où dans ce village-là de Pygmées, on les a interdits de travailler dans les parcs. Vous vous imaginez, ce sont des gens qui sont vraiment démunis. Ils n'ont pas d'autres activités. On les empêche d'entrer dans les parcs. Ils n'ont pas d'autres activités. Or, le pays a signé quand même des traités pour la protection de la nature où on a financé, et ces paisibles citoyens devraient quand même bénéficier de quelque chose de ces signatures-là. Malheureusement, notre gouvernement, il est d'abord irresponsable. Et aussi, vous pouvez vous rendre compte, le gouvernement pouvait d'abord nous donner même les bilans des tracteurs qu'ils ont distribués partout dans le pays.
Voilà, merci beaucoup, ingénieur Battier. Et quand vous parlez de l'irresponsabilité du gouvernement, bon, je crois qu'on va quand même atténuer un tout petit peu, hein. C'est des responsables qui dirigent les pays. Et à un certain moment, il y a beaucoup de projets qui ont été mis en route pour réellement résoudre ce genre de problèmes. Et vous les savez comme nous, il y a un problème qui a atteint quand même une dimension internationale quand on parle de parcs, de certains parcs nationaux qui sont des patrimoines mondiaux ou patrimoine mondiaux. Donc je crois que la question ne doit pas voir être vue de manière un peu simple, parce que c'est trop complexe. Et comme nous le disons toujours, il y a des problèmes qui relèvent des solutions un peu transversales, parce que ça concerne un peu beaucoup des secteurs. Il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Merci beaucoup, ingénieur Battier. Bitou, vous êtes à Kimpese. Bonjour, Bitou.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à notre invité.
Quel est votre avis par rapport à ces débats?
Bon, JR, ce que je pouvais ajouter, c'est que en dehors de tout ce qu'on a dit, donc l'agriculture forestière et aquatique et autres, nous sommes toujours dans l'incapacité de nourrir notre population. Mais le problème, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il y a des changements de régime depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'on met un ministre qui est chargé de l'agriculture et autre chose, il abandonne tout ce qu'il avait trouvé, tout ce que ses prédécesseurs ont mis comme initiative, il veut recommencer à zéro. C'est ainsi que, si vous prenez par exemple en 2001, avant 2001, avec Moudé Laurent-Désiré Kabila, en 1998, nous avons eu la production des services nationaux au niveau de la foire. Si vous avez eu le temps de passer à la foire de 98, vous avez déjà été impressionné par la quantité de maïs, donc la dimension de maïs et de tomates qu'on avait récoltées par les services nationaux. Et cela s'est passé simultanément sur l'ensemble du pays. Arrivé l'autre régime, on a fait table à rase de cela et on est revenu à zéro. On a commencé à distribuer encore des tracteurs. Les tracteurs ont été distribués pour aucun résultat jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle que j'étais au Bakou, j'étais à Madimba là-bas, où je voyais les tracteurs qui traînaient devant des bureaux. Et les tracteurs là étaient au-dessus des bourses de la population pauvre qui pouvait les louer. À cette période-là, on demandait environ 70 dollars pour la location des tracteurs, plus l'argent de carburant. Et la population était incapable de donner ces montants-là. Il n'y avait que ceux-là qui ont les moyens qui pouvaient l'utiliser. Ce que les responsables politiques doivent savoir est que lorsque, même si vous êtes nommé ministre aujourd'hui, il faut d'abord voir ce que vos prédécesseurs ont déjà fait et qu'est-ce qui est bon à prendre pour continuer au lieu de refaire les mêmes histoires, reprendre les mêmes contacts. Et nous sommes en train de perdre des moyens inutilement et le temps. Et nous allons mourir bientôt et on va laisser le pays toujours. Les enfants ne mangent pas normalement. Nous mangeons des quantités inutiles qui ne nous profitent pas. Il suffit de faire un petit tour. Prenez un Congolais qui quitte la RDC pour les... Vous savez, beaucoup de Congolais vont à l'étranger juste puisque comparer leur santé, la santé des Congolais habitants au Congo. Et quand il va à l'extérieur et quand il rentre dans son pays, vous allez voir qu'il y a une très grande différence. C'est pour vous dire que dans son propre pays, on ne mange pas la qualité, on ne mange que la quantité. Donc, le pouvoir en place, le pouvoir qui se sont succédés dans ce pays, ne tient pas compte de la vie de la population congolaise en leur offrant ce qu'il faut, ce qu'ils doivent manger en quantité et en qualité. Donc, il faut éviter les slogans. Nous avons déjà assez entendu les slogans « agriculture, priorité de priorité ». Mais en réalité, dans nos budgets, regardez ces 10 dernières années, on n'a jamais investi plus de 10% dans l'agriculture. Donc alors, on ne peut pas attendre à des résultats pour nourrir la population congolaise.
Merci beaucoup, Bintou. Voilà, on revient à notre invité tout à l'heure qui évoquait quelques aspects et je crois que même vos prédécesseurs l'ont reconnu qu'aujourd'hui, les climats qui changent, l'alimentation et l'agriculture aussi, c'est quand même un défi énorme pour la République démocratique du Congo et ses partenaires. Je crois que Monsieur Alexis ne va pas contredire quand même les auditeurs qui venaient de le dire. C'est quand même un grand défi aujourd'hui.
Non, c'est un énorme défi. Et de toute façon, comme on le parlait avec l'ingénieur Battier, surtout la conservation de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Hein. C'est pas simplement l'affaire de la population congolaise, du gouvernement congolais. Et quand on regarde les investissements qui sont mis pour les parcs, on voit que l'ICCN est beaucoup appuyé, d'une part par le gouvernement, mais également par différents barrières de fonds comme l'Union européenne, USAID, la GTZ. Et je pense qu'il y aura toujours un appui. Ça, ce sont vraiment des biens mondiaux. Donc, il y aura toujours un appui pour faire en sorte que ces parcs et les populations qui vivent dans le parc, et également les populations riveraines, d'une part pour qu'elles puissent diversifier leurs moyens d'existence, mais également pour qu'elles puissent faire en sorte de limiter leur impact sur le parc. Ces populations-là seront toujours appuyées. Et je pense que l'Union européenne a signé un accord il y a quelques mois d'environ 100 millions d'euros pour des projets autour de 3 ou 4 des parcs principaux. Et je pense pas que ce genre d'initiative va s'arrêter d'ici peu. Donc il faut pas penser qu'on va laisser les populations riveraines démunies et sans autre option que de ponctionner dans le parc. Après, souvent, j'ai l'impression que les auditeurs parlent de la gouvernance. Ça, c'est très clair, hein. C'est la première personne la première entité qui est responsable de la population, c'est le gouvernement. Le gouvernement, il est élu par des gens, donc on est chacun responsable des actes qu'on pose. Par exemple, j'étais dans une des provinces de Kivu, où on dit que le sol n'est pas fertile, etc. Donc c'est clair, sur les collines, c'est pas très fertile, mais entre deux collines, il y a toujours un bas-fond. Et les bas-fonds, ils sont extrêmement fertiles. Malheureusement, d'après les discussions que j'ai eues, la plupart de ces bas-fonds appartiennent soit à des hommes politiques, soit à des grands commerçants ou à des hommes, des personnes extrêmement riches, qui sont très liés. Et ces personnes ne veulent pas que n'exploitent pas les bas-fonds, donc il n'y a rien qui est produit avec ça, alors qu'ils sont très riches, et deux, ne laissent pas les populations venir produire des vivres, des aliments dans ces bas-fonds. Donc là aussi, il suffit d'avoir une décision de gouvernance, de bonne gouvernance, en disant, voilà, on fait des contrats entre le propriétaire et les populations, des contrats qui sont limités dans le temps pour pas que les population ne se l'approprie, mais au moins qu'elle puisse l'exploiter de manière temporaire.
Bénéficier, oui. Voilà, alors je crois qu'il y a des auditeurs, d'autres qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre, mais il est temps peut-être d'accorder la parole à Valérie. Valérie, vous êtes à Kindu ?
Oui, je suis bien à Kindu. Merci beaucoup, bien-aimé JR. En tout cas, je vous ai pris à court de l'émission, mais j'ai compris quand même les contours. Mon cher JR, c'est tout à fait regrettable pour notre pays. Permettez que je définisse d'abord des concepts qui vont me servir de prémices pour la suite. En effet, les économistes définissent la pauvreté comme l'état d'une personne dépourvue de ressources. Par là, vous comprendrez qu'il est tout à fait impossible que nous qui sommes potentiellement riches, comme on l'a toujours dit, que nous soyons pauvres parce que les ressources sont là. Comment quelqu'un peut avoir des ressources et être à la fois pauvre? Ça, c'est la première prémisse. Deuxième prémisse, lorsque nous allons en psychologie, le pédagogue, le psychopédagogue définissent l'intelligence. Ils ont connu plusieurs définitions, bien entendu. Il y a Binet qui avait défini l'intelligence comme l'art comme la faculté de comprendre. On a compris que ce n'est pas tellement ça. Aujourd'hui, la définition psychopédagogique est en vogue. Est-ce celle qui reconnaît à l'intelligence la faculté de s'adapter? Alors, puisque nous avons les ressources, puisque le changement climatique s'avère à une certaine dimension profitable à nous, c'est-à-dire, il nous faut maintenant de l'intelligence pour nous adapter. C'est tout. Nous adapter, cela signifie quoi? Le changement climatique, comme j'ai allé dire dans des émissions précédentes, on a remarqué qu'à travers le monde, que le changement climatique se manifeste soit par des sécheresses, soit par des inondations. Or, chez nous, c'est plus les inondations. Maintenant, comment gérer les inondations? Comment les adapter au mieux du bien-être congolais? Donc, par là, je conclue ceci par exemple. 1. Je vous avais dit autrefois qu'on pouvait construire des barrages pour servir de stockage de l'eau que nous pouvons réutiliser au moment des étiages. Deuxièmement, lorsqu'on parle des inondations, vous savez, quand il pleut, les eaux des pluies se divisent en trois composantes, par exemple. Il y a une composante qui s'infiltre dans les sous-sols, une deuxième composante qui ruisselle, et finalement la troisième s'évapore. Alors, si vous constatez bien, les inondations sont aussi dues au fait qu'il y a beaucoup de constructions anarchiques autour des fleuves et autour des rivières, bref, du cours d'eau. Ça, c'est des problèmes que l'on peut gérer. On n'aura pas vraiment arrivé jusque-là. Maintenant, quant au...
Oui, rapidement, rapidement, ingénieur Valérie.
Ouais.
Rapidement, parce que vous avez déjà épuisé vos deux minutes. Quand...
Oui, quant à l'agriculture, quant à la culture, quant aux cultures qui ne supportent pas assez d'eau. Mais je crois qu'il y a des techniques. On peut adapter, par exemple, la méthode des serres pour, disons, coupler la méthode des serres avec celle d'irrigation. D'un côté, on protège contre les pluies abondantes, et de l'autre, on sait quand même irriguer de l'eau en quantité suffisante. Et s'il faut requérir même une température, à ce moment, on peut bien calculer, alimenter un peu du courant et tout ça. Il y a les 6 jours.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie. On va conclure avec notre invité, monsieur Alexis Bonté, représentant de la FAO. Mais et d'abord une inquiétude, hein, la FAO. On sait que par rapport au thème de cette année, la FAO va collaborer avec les pays pour améliorer la gestion, vous l'avez dit, de l'élevage et atténuer les effets du changement climatique. Également, la FAO estime que la production vivrière mondiale doit augmenter d'environ 60% d'ici 2050. Ben alors, pour en ce qui concerne la RDC, quelles seront les stratégies?
Bon, les stratégies, de nouveau, il y a beaucoup de plans qui ont été rédigés. Le plan national d'investissement agricole, il y a le plan RED dans lequel il y a toute une composante agricole sur l'agriculture durable. Donc, il y a beaucoup d'éléments techniques qui existent déjà. Il y a ce qu'on appelle l'agriculture climato-intelligente, donc qui fait vraiment attention au type de variété que l'on utilise pour qu'on puisse s'adapter. Mais ce que je voudrais dire plus globalement, en fait, au Congo, en RDC, il y a une opportunité écolonomique, à la fois écologique et économique. Parce que si le changement climatique va se confirmer d'ici quelques années, c'est pas le Congo qui va être le plus affecté. Étant donné sa position géographique avec de part et d'autre de l'Équateur.
La frontière d'ailleurs et puis l'étendue.
C'est clair que vous n'allez pas être enfin que vous, même moi, puisque je sais pas combien de temps je vais rester. On ne sera pas les plus affectés par rapport à des régions comme le Sahel ou l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est qui, eux, sont déjà complètement affectés et ont des zones extrêmement sèches. Ici, donc, avec les 80 millions d'hectares qui sont relativement disponibles encore, il y a une opportunité de mettre ça en œuvre et de pouvoir nourrir les populations d'autres régions d'Afrique qui, elles, vont souffrir beaucoup plus. Donc, grâce à l'écologie, vous avez une opportunité économique. Mais de nouveau, il ne faut pas croire au miracle, hein. Ça nécessite un engagement politique extrêmement fort et surtout stable. Il y a un des problèmes qui avait été cité par un des auditeurs précédents, c'était un changement de politique à chaque changement de gouvernement ou chaque changement de ministre. Ça, c'est quelque chose qui est à déplorer. Il faut une stabilité. Quand on parle de développement, c'est une croissance inclusive stable. Donc le mot stabilité, c'est vraiment important. Sans stabilité, on n'ira nulle part. Donc cette opportunité que je nomme écolonomique, c'est quelque chose qu'il faut essayer de prendre, parce que sinon il y a d'autres pays qui vont s'en charger, comme le Brésil, et qui ont des caractéristiques similaires. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas non plus trop espérer que du gouvernement. Il y a « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Donc il faut qu'on prenne nos responsabilités à chaque niveau, que ce soit au niveau gouvernemental, mais également au niveau très local.
Monsieur Alexis Bonté, vous êtes représentant de la FAO en RDC. Merci d'avoir été de nôtre et surtout d'avoir répondu à notre invitation dans ces studios.
Merci aussi. C'est un plaisir.
À Sylvain Matundu, qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie. Julie Fezabungunda a assuré le standard de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Martin Sebou Jangues. Donc c'est par ici que nous mettons un terme à ces programmes. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.